Silence.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Entre-deux-Mers, 98.4 FM, www.re2m.com. Et aujourd'hui, c'est la conversation autour du cinéma que nous retrouvons tout de suite avec Anne. Bonjour Anne.
Bonjour Damien, bonjour, je suis très contente de te retrouver. Voilà, et puis retrouver nos auditeurs, bien sûr, tu vas bien ?
Oui, ça va bien et toi ?
Oui, ma foi, écoute, oui, bah oui, hein, il faut absolument aller. Et puis dès qu'on trouve nos auditeurs, on va beaucoup mieux. Hein. De toute façon, ça fait tellement plaisir, même si on ne les voit pas, mais on sait qu'ils ne sont pas loin.
Eh oui, les auditeurs, ils sont juste là, derrière nos voix et derrière leurs oreilles, ils nous entendent. Et dans cette heure, nous allons vous parler des films qui sortent actuellement au cinéma. Et comme à peu près toutes les semaines, Anne débute avec un film plus orienté pour le jeune public.
Oui.
Film d'animation qui nous est proposé aujourd'hui de Linda Hambach. Ça s'appelle « Ma mère est un gorille ». Et alors ?
Entre parenthèses d'ailleurs. Et alors ? Point d'interrogation. Oui, c'est pour les à partir de 6 ans, ma petite Naya va pouvoir y aller, ma petite copine. Je sais qu'elle va y aller. En tout cas, ça dure 1h12, c'est une animation, oui, pour la famille. C'est suédois. Linda Hambach est une réalisatrice, monteuse, productrice, auteure. Elle écrit également. Elle est suédoise et sud-coréenne. Voilà, elle a les deux nationalités, elle a 46 ans. 8 ans de carrière, 4 tournages à son actif. Et en fait, à partir de 1998, elle travaille toujours. Elle a commencé à travailler pour le cinéma et la télévision. Et donc, et en 2017, on lui doit un petit film adorable. Ça s'appelle Paddy, la petite souris. Ça dure 1h07. Et ce film d'animation a reçu un très, très bel accueil. Et il a une nomination, d'ailleurs, à mon premier festival en 2018. Pas mon premier à moi, hein, c'est le nom du festival, mon premier festival. Donc c'est quelqu'un qui connaît bien ce qu'elle fait et qui fait de très jolies choses pour les enfants et même les adultes, parce que bon, ils peuvent aussi regarder parce que c'est très beau. Moi j'adore en fait, ma mère est un gorille, j'adore ce petit film d'1h12. Donc j'ai bien dit que celui-là, par contre, il a 2 nominations, une au Festival du film d'animation d'Annecy, en 2021, dans la catégorie long métrage compétition, et puis une nomination au Little Film Festival 2021, Histoire à dormir debout. On en a parlé ici à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers de Little Film Festival.
Oui.
On en avait parlé, on avait cité plusieurs courts métrages, dont justement Ma mère est un gorille et alors. On en avait justement. J'avais trouvé que c'était très très chouette ce festival d'ailleurs, qui passe un peu partout. Hein. Dans toutes les villes où il y a un cinéma de proximité et qui fait des goûters pour les enfants. Et à chaque fois, donc, il y a une animation. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ah, ce que souhaite Jonah, par-dessus tout, c'est de trouver une famille adoptive. Jonah, c'est une petite fille. Dans le dessin animé, c'est une petite fille, hein. Ce n'est pas un animal. Bon, beaucoup de dessins animés représentent hein, des personnages sous forme d'animaux. Là, c'est vraiment une petite fille, Jonah. Voilà, elle veut sa famille adoptive. Elle accepterait n'importe quel parent qui puisse lui donner de l'amour. La surprise est de taille lorsqu'une femelle gorille se présente un jour à l'orphelinat pour être sa nouvelle maman. Voilà, c'est une histoire absolument délicieuse. Ce film est basé sur le roman de jeunesse qui est du même nom d'ailleurs, hein, qui a été écrit en 2005 par Frida Nilsson. C'est une auteure suédoise, hein, qui est aujourd'hui considérée comme l'une des auteurs de livres pour enfants les plus talentueuses de son pays, c'est-à-dire la Suède. Ses livres connaissent un succès international et sont nommés pour de prestigieux prix littéraires. Alors, ma mère est un gorille alors, et son premier roman, traduit en français en 2011, il est paru chez Bayard Jeunesse, pour ceux qui veulent l'acheter. Voilà, ma mère.
Ma mère est un gorille. On peut écouter la bande-annonce ?
Ah oui, merci Damien.
Pour voir et se mettre dans l'univers.
Oui.
Les enfants, on reçoit de la visite aujourd'hui.
Sois pas triste, Yona. Tu verras, un jour tu seras adoptée, j'en suis certaine.
J'ai pas besoin d'une maman. Je vous et vous, ça me suffit.
Vous allez devoir être beaucoup plus efficace. Soit vous faites ce pourquoi on vous paye, c'est-à-dire trouver des familles pour tous ces enfants, soit on détruit l'orphelinat.
Tenez-vous bien, les enfants.
Tu vas manger?
Mais non, rassure-toi. J'ai préparé un bon déjeuner pour nous deux.
Waouh!
Vite! Je trouve que toutes les deux ont fait une sacrée bonne équipe.
Lana, qu'est-ce que tu fais là? Cette gorille est inapte à s'occuper d'un enfant.
Tu me lâches pas, hein?
Je ne te lâcherai jamais.
Au secours!
Tu ne m'échapperas pas!
Ma petite fille.
Maman. J'avais dit que tu me lâcherais pas.
Ma mère est un gorille. Et alors, et maintenant, un autre film d'animation de Patrick Imbert.
Oui.
Ça s'appelle Le Sommet des Dieux.
Le Sommet des Dieux, c'est un joli titre ça quand même. Oui, Le Sommet des Dieux, l'animation, c'est de l'aventure, il y a du drame. C'est français et luxembourgeois. C'est de Patrick Imbert, oui, réalisateur, animateur, scénariste, directeur artistique des effets visuels. Il est ingénieur du son également.
Et là, on n'est pas spécialement sur un film pour les petits, quoi.
Non, là, c'est pas pour les enfants. Mais non, effectivement, Patrick Imbert, donc, il est directeur de la photographie aussi. Je ne sais pas ce que Patrick Imbert ne sait pas faire au niveau du cinéma, finalement, et au niveau de l'art, en fait. Hein. Il est français. Il a, en 2012, ah oui, on lui doit, c'est très, très joli. Moi, j'aime beaucoup Ernest et Célestine. Mmh. Ah, c'est beau. Ça passe souvent à la télévision,
avec
d'ailleurs.
L'ours et la petite souris.
Oui, oh, c'est absolument adorable. C'est délicieux. Et en 2017, on lui doit Le Grand Méchant Renard et autres contes. C'était 3 courts-métrages. Il a donc 8 ans de carrière, 13 tournages à son actif, 5 nominations. C'est un petit coup de cœur aussi, là, comme le premier. Ma mère est une gorille. Bon, voilà, c'est un gorille. Le Sommet des Dieux a eu un prix à la Fondation Gannes pour le cinéma en 2018. C'est un joli prix, ça. Et 1h30, hein, ça dure. Eh ben, ça se passe où? Ça se passe à Katmandou. Le reporter japonais Fukamashi croit reconnaître Abu Joji, cet alpiniste que l'on pensait disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses mains un appareil photo qui pourrait changer l'histoire de l'alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine étaient les premiers hommes à avoir atteint le sommet de l'Everest le 8 juin 1924 ? Point d'interrogation. Seul le petit Kodak Vest Pocket avec lequel il devait se photographier sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fukamashi se lance sur les traces de Abu. Il découvre un monde de passionnés assoiffés de conquêtes impossibles et décide de l'accompagner jusqu'au voyage ultime vers le sommet des dieux. Alors, dans les voix, on a Lazare et Eric Herson, Marc Carrel, oui. Et Lazare et Eric Herson sont des frères, hein, Herson, Marc Carrel, qui ont l'habitude hein, de faire des voix, justement, pour des animations. On a François Dunoyer aussi, qu'on connaît, lui, c'est un grand acteur, François Dunoyer. On reconnaît même sa voix quand on le connaît comme acteur. Alors, c'est titré « Un suspense imparable, un coup de maître ». Une aventure hors du commun, au-delà des limites. Alors c'est tiré de, enfin c'est d'après le manga Jiro Taniguchi et de Jiro Taniguchi et Baku Yumemakura, qui sont très connus justement là chez eux pour leur manga. Il a fallu quand même 4 ans de travail hein, sur le scénario pour réussir à condenser, attention, les 1500 pages du manga. Ça devait être un sacré travail quand même. Hein. Le film délaisse les intrigues secondaires, eh oui, forcément, hein, pour se concentrer sur les quêtes des deux personnages principaux. Il a été également conservé l'entremêlement présent-passé. Le troisième personnage du film, bah, c'est qui ? C'est l'Everest, évidemment. C'est en 1953 que les 8848 mètres du mont Everest, ah oui quand même, 8848 mètres, il faut les monter. Hein. Donc en 1953, ils ont été gravis pour la première fois par Edmund Hillary et Tenzing Norgay. Depuis, près de 5800 alpinistes ont réussi l'ascension. Malheureusement, 300 candidats y ont trouvé la mort, il faut penser aussi à ça. Leur dépouille jonchant parfois les abords du tracé vers le sommet. George Mallory, cet alpiniste britannique, est resté célèbre pour avoir péri en 1924 à 37 ans avec son partenaire Andrew Irvine alors qu'ils étaient proches du sommet de l'Everest. Leurs corps ont été retrouvés à 8390 mètres d'altitude. Leur appareil photo n'a jamais été retrouvé. L'appareil aurait pu prouver si oui ou non. En fait, ils ont atteint le sommet. Parce qu'en fait, entre le sommet et l'endroit où on a trouvé leur corps, il y a quoi ? Il y a 458 mètres qu'il fallait franchir pour aller au sommet. Alors, ils sont peut-être arrivés au sommet et puis ils ont trouvé la mort en redescendant. C'est possible, 458 mètres plus bas. Voilà. Alors, il y a un appareil est au cœur de ce roman. Il est au cœur du manga, et il est au cœur du film d'animation, cet appareil photo. C'est vraiment très, très beau. Alors, mes chéris, si vous aimez l'alpinisme, si le mont Everest vous fascine, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs, ben, ce film est pour vous absolument. Il est tout à fait... il est pour adultes, il n'y a aucun souci, ou pour adolescents d'ailleurs aussi. Il est très chouette et je pense que Damien a une bande-annonce. Pour nous.
Grimper. Grimper encore, toujours plus haut. Et après. Le sommet de l'Everest a été atteint en 1953. Mais c'était pas la première tentative.
Ça fait 70 ans qu'on le cherche, Mallory. Si quelqu'un l'avait retrouvé, on le saurait.
Pas la peine de s'énerver, je vais t'expliquer.
À bouge. Ce type a disparu depuis des années et hop, il refait surface avec l'appareil de Mallory.
Si Mallory a atteint le sommet, ça peut changer l'histoire de l'alpinisme. Le premier homme sur l'Everest. On peut pas laisser passer ça.
Jamais d'adresse, jamais de mots, jamais de signature. Pourquoi vous cherchez à bout ?
Ce mec se planque.
Mais à quoi tu joues, là ? Tu sais peut-être tout ce type, mais à quoi ça te sert ?
L'alpiniste trouve toujours de nouveaux défis.
Ça finit jamais.
Je sais ce que vous voulez faire cet hiver. L'Everest, la face sud-ouest.
Tu rigoles, personne ne peut faire ça en hiver.
S'il vous plaît, laissez-moi grimper avec vous, je ferai tout ce que vous me direz.
8 ans qu'il se prépare. Cette ascension, c'est tout pour lui.
Ici Canvas, vous me recevez ? Vous êtes en retard sur l'horaire, l'orage sera là-haut avant vous.
Ne cherche pas à le suivre à tout prix. Le corps n'est pas fait pour survivre à cette altitude.
On a perdu trop de temps, la fenêtre est trop courte.
Yamashi, réveille-toi !
Laisse-moi !
Pourquoi tu fais ça ? Une fois qu'on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. Il n'y a plus que ça qui compte.
Très
voici
beau.
Donc le sommet des dieux.
Oui. Et il y a un journal très célèbre qui a écrit « Quand l'animation française tutoie les nuages ».
Là, c'est très beau au niveau, en termes d'animation. On est sur un très beau roman graphique, de type roman graphique.
Ah oui, c'est magnifique. Le sommet des dieux, mes chéris. essayer d'aller voir ce
retrouver.
Film.
Et maintenant, c'est le film d'un célèbre réalisateur français du nom de François Ozon qui nous propose un film qui s'appelle « Tout s'est bien passé » avec notamment Sophie Marceau.
Oui, « Tout s'est bien passé », bon ben espérons en tout cas. C'est une comédie dramatique. C'est drame aussi, hein. C'est français donc, tu l'as dit. 1h52, François Ozon, bah, c'est un réalisateur, scénariste, dialoguiste français. Mon Dieu qu'on le connaît, François Ozon, il n'y a aucun souci, il a 53 ans. Il a 32 ans de carrière, il a commencé tout bébé. Et puis il a 41 tournages à son actif, 7 prix, 113 nominations. Il dit, en parlant de son film, on le dit tout de suite ça, « J'espère que le regard du public changera sur une réalité qu'il ne connaît pas forcément. » De quoi parle-t-il là ? Mais il parle de... C'est une adaptation d'abord, hein, d'un roman « Tout s'est bien passé » d'Emmanuelle Bernheim qui a été publié en 2013 et dans lequel elle raconte comment elle a aidé son père à mourir. Alors c'est quoi cette histoire ? C'est Emmanuelle, romancière, épanouie dans sa vie privée et professeure. Elle se précipite à l'hôpital. Son père André vient de faire un AVC. Je voulais dire qu'elle était... ça me secoue un peu ce genre d'histoire. Excusez-moi, je voulais dire romancière épanouie dans sa vie privée et professionnelle. J'ai dit profession, je crois. C'est sa vie privée et professionnelle. Voilà. Elle se précipite donc à l'hôpital. Fantasque, André, aimant passionnément la vie, mais diminué. Il demande à sa fille de l'aider à en finir. Avec l'aide de sa sœur Pascal, elle va devoir choisir, accepter la volonté de son père ou le convaincre de changer d'avis. Alors tu l'as dit, oui, c'est Sophie Marceau qui joue Emmanuel, André Dussolier qui joue son père André. On a Géraldine Payasse et Pascal, la sœur d'Emmanuel. Mmh. On a Charlotte Rampling, qu'on est ravis de retrouver. On a Eric Caravaca, Grégory Gadebois, on a Jacques Nolo, on a Anna Chiglia. Alors Anna Chiglia, si on se souvient d'elle, c'est une actrice polonaise qui était l'égérie du réalisateur allemand Fassbinder. Elle a beaucoup joué avec lui. Fassbinder, c'est le réalisateur qui est mort d'une rupture d'anévrisme à 37 ans et qui était un grand, grand réalisateur. Il a commencé très tôt et il aurait pu faire encore beaucoup de très beaux films. En tout cas, c'est un beau casting, c'est sûr. Hein. On a également Judith Magre, qui est plutôt, elle, une femme de théâtre. C'est plutôt une comédienne de théâtre, très, très douée. On a Daniel Mesguich, pareil, hein, c'est plutôt quelqu'un qu'on connaît plus au théâtre. Daniel Mesguich. Voilà, tout s'est bien passé. C'est... oui.
On va écouter la bande-annonce.
Oui, je suis un peu émue, moi, là.
On va se reprendre.
Oui, je suis un petit peu... voilà.
Ouais, allô ? Quoi ? Quand ? À son réveil, papa pouvait plus se lever et il avait tout le côté droit paralysé.
Votre père risque de ne plus pouvoir parler, ni s'alimenter.
Je veux que tu m'aides à en finir. Tu m'entends ?
Je vais rien faire sans toi, sans ton accord, rien. De toute façon, c'est à toi qui l'a demandé.
C'est un mauvais père.
Mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme ami.
Alors aide-le. Comme une amie.
En France, c'est pas possible.
Alors qu'est-ce qu'on fait ?
J'ai contact avec une association suisse, mais il faudrait aller là-bas.
Très bien. Ça se passera où ?
À Berne.
Il faudra me donner une dose forte. Depuis mon pontage, j'ai le cœur très solide. J'ai que mon fils préféré.
Les filles, je suis très choquée. André nous a expliqué qu'il pouvait plus changer d'avis.
Quoi ? Mais si.
Papa, regarde-nous dans les yeux.
Tu étais tellement vilaine, enfant. On pourrait choisir la date. Pourquoi pas en mars ?
C'est la semaine de mon anniversaire.
Je veux presque plus bouger. Plus faire les gestes simples de la vie normale.
Maman, pourquoi est-ce que t'as jamais quitté papa avec tout ce qu'il t'a fait subir ?
Oh, qu'est-ce que ça fait du bien !
Ouais, mais t'es toute frigorifiée !
Non, mais je me sens vivante !
Tu te rends compte ? Ce qu'on est en train de faire pour lui, là.
On va être pleureuse.
fours fusillés, que se passerait-il ?
Voilà, tout s'est bien passé par donc François Ozon.
Ben oui, le film a été présenté en compétition au Festival de Cannes 2021 et s'est titré du Grand Ozon avec un André Dussolier éblouissant. Voilà. Voilà bon. Pour ben mes chéris, bon ben voilà, si vous êtes sensible à ce si ce sujet vous voilà vous enfin, voilà, sur ce sujet, bah, écoutez, moi, je vous le conseille parce qu'il est très bien fait. Mais ayez quand même le moral. Hein. Voilà, c'est... Il faut avoir le moral quand même pour aller le voir, bien que ce soit un très, très beau film. Voilà. Il faut être en pleine forme. On est d'accord là-dessus, Damien, je
pense. Oui, tout à fait. Et donc, maintenant, ça va être dans un tout autre genre, un film de Jasmila Zbanić qui s'appelle « La voix d'Aïda ».
Oui. La voix d'Aïda, c'est un drame, il y a de la guerre, c'est historique. Alors là, tout le monde s'y est mis. Attention, on s'accroche, c'est bosniaque, c'est allemand, c'est français, c'est autrichien, c'est roumain, c'est néerlandais, norvégien, turc, polonais. Tu vois, tout le monde s'y est mis, il n'y a pas de problème. Alors, c'est de Jasmila Zbanić, oui, qui est un réalisateur, scénariste, producteur bosniaque-yougoslave. Hein, il a les deux nationalités, il a 46 ans, 20 ans de carrière, 11 tournages à son actif, 2 prix, 14 nominations. Et là, pour La Voix d'Aïda, il a eu 3 nominations. Une aux Oscars Academy Awards 2021, c'est l'Oscar du meilleur film étranger. Et les 2 nominations aux BAFTA Awards, Orange British Academy Film Awards de 2021, catégorie meilleur film non anglophone, hein, c'est-à-dire voilà. C'est surtout, il y a surtout des acteurs bosniaques d'ailleurs, hein, yougoslaves, bosniaques, il y a les Autrichiens un petit peu, un ou deux néerlandais, il y a un Belge également, enfin on va voir leurs noms. Donc là, pour l'instant, de quoi s'agit-il ? En juillet 1995, sa modeste professeure d'anglais, Aïda, vient d'être réquisitionnée. Ça se passe à Srebrenica. Srebrenica, c'est une ville en Bosnie-Herzégovine. Hein. Il y a une municipalité. La ville, c'est 2600 habitants hein, à peu près. Et la municipalité, en tout, c'est 15 200 habitants quoi, à peu près. Donc, elle vient d'être réquisitionnée, mais pourquoi ? Ben, comme interprète auprès des casques bleus stationnés aux abords de la ville. Leur camp est débordé. Les habitants viennent y chercher refuge par milliers, terrorisés par l'arrivée imminente de l'armée serbe. Chargée de traduire les consignes et de rassurer la foule, Aïda est bientôt gagnée par la certitude que le pire est inévitable. Elle décide alors de tout tenter pour sauver son mari et ses 2 fils coincés derrière les grilles du camp. Alors on a dans les rôles justement, on a Jasna Duricic, on a Izudan Brajovic, on a Boris Lair, Dino Bajrovic aussi. Oui, c'est pas évident hein, quand même, hein, il va falloir que je me mette au serbe. Edita Malovic, qui est une... Elle, Edita Malovic, c'est une Autrichienne, une actrice autrichienne. Raymond Thierry, c'est un acteur néerlandais. Il y a un Belge également, Johan Heidenberg, qui est dans ce casting, qui à mon avis est un casting plutôt bien fait, parce que ce sont des gens, j'ai un petit peu vérifié, la plupart sont quand même connus hein, comme acteurs chez eux. Donc nous, évidemment, on les connaît moins, mais justement... Hein, il faut faire connaissance avec tous ces films qui viennent d'un autre pays, avec des acteurs d'autres pays. C'est toujours très intéressant, ça, justement, cette rencontre. Alors, Aïda, selon Jasmila Zbanić, elle est entre 2 mondes pour lui. Elle est bosniaque et ses proches sont dans la même situation que les 30 000 habitants de Srebrenica. Mais elle travaille pour l'ONU, si bien que sa position est ambiguë. Elle croit en l'ONU. Elle croit que sa famille sera en sécurité sur une base de l'ONU et qu'elle bénéficie de certains privilèges parce qu'elle travaille pour l'ONU. Le film évoque son parcours dès lors que tout s'effondre autour d'elle. Le film, en fait, trouve son origine dans un fait historique des plus tragiques, datant de 1995. le massacre systématique de plus de 8000 habitants de Srebrenica, qui est situé, je l'ai dit tout à l'heure, à l'est du pays. Et ça s'est produit justement à la fin de la guerre de Bosnie, c'était 1992-1995, cette guerre. Alors, ce que nous dit la réalisatrice, c'est que pendant le conflit, Srebrenica a été déclarée par l'ONU zone de sécurité pour les civils et les habitants. Pourtant, quand les forces bosno-serbes ont envahi la ville en juillet 1995, les casques bleus désarmés qui avaient sollicité le soutien de l'ONU à New York ont été totalement livrés à eux-mêmes avec la population. Le sentiment de sécurité et la confiance dans des institutions comme l'ONU ont été réduits à néant. Des milliers de gens sont morts et bien plus encore les ont pleurés. Je m'étais toujours dit, nous dit-il, qu'il faudrait faire un film à partir de ce qui s'était passé sans imaginer que ce serait moi. Là, c'est un film très 1h44, très dur, mais voilà, c'est un beau film tout de même.
Sur une guerre qui s'est passée juste à côté de chez nous, quelques années de ça. Hein.
Mais c'est pas vieux.
Non, c'est ça.
C'est pas vieux, 1995.
Il faut en avoir conscience de ça.
Eh oui. Mais c'est pour ça qu'elle l'a fait, que ce film a été réalisé, hein, justement. Mmh, mmh. Eh oui.
Ça s'appelle La Voix d'Aïda. Et maintenant, ça va être un film de Tom McCarthy que tu nous proposes,
oui.
du nom de Stillwater.
Tout à fait. Eau plate, ça veut dire, en fait, si on traduit. Stillwater. C'est un thriller, un drame américain. Oui, Tom McCarthy, tu l'as dit. Réalisateur, scénariste, acteur américain. Il a 55 ans, 28 ans de carrière, 45 années de tournage, 9 prix et 22 nominations quand même. Voilà. Et là, pour Stillwater, il a deux nominations. Une, au Festival de Cannes 2021 et une au Festival du cinéma américain de Deauville 2021. Alors, pour le premier, c'est les premiers. C'est dans la catégorie première hors compétition. Et pour le deuxième, c'est dans la catégorie long métrage hors compétition. Car ce film était hors compétition. Il a été présenté justement comme ça, hors compétition, au Festival de Cannes, le dernier, 2021. Voilà. Donc, c'est l'histoire d'un foreur de pétrole, Bill Baker, qui débarque à Marseille, du fin fond de l'Oklahoma, pour soutenir sa fille Allison, qu'il connaît à peine, mais qui purge une peine de prison, accusée d'un crime qu'elle nie avoir commis. Confrontée au barrage de la langue, aux différences culturelles et à un système juridique complexe, Bill met un point d'honneur à innocenter sa fille. Au cours de ce cheminement intime, il va se lier d'amitié avec une femme, une jeune femme, Virginie, une jeune femme du coin, et de sa petite fille Maya, tout en développant une conscience élargie de son appartenance au monde. Donc là, c'est pareil, on a un casting extrêmement sympathique. On a Camille Cotin, c'est Virginie, la jeune femme qu'il rencontre, qu'on aime beaucoup Camille Cotin, on est content de la voir. Et puis on a Matt Damon, c'est Bill Baker. Oh, il a beaucoup de talent, cet acteur. Je crois qu'on l'aime beaucoup en France, quand même. Hein. C'est un acteur qui est souvent venu, qui aime beaucoup, d'ailleurs, la France. C'est ce qu'il dit, en tout cas. Et qui est souvent venu, soit en vacances, soit pour des tournages. On a Abigail Breslin, qui est une actrice américaine qui joue le rôle de la petite Allison. C'est pas la petite Allison. Elle n'est pas petite, c'est la fille de Bill Baker. Là, elle a déjà un certain âge. Non, la petite, c'est Maya. Alors, Maya, elle a 8 ans. C'est Lilou Siovo qui joue le rôle. Hein. Voilà, Maya. On a Moussa Maaskri. Il est connu, lui. Hein. On le reconnaît. Si on a l'habitude d'aller au cinéma, même si on n'a pas trop retenu son nom, on le reconnaît immédiatement. Très, très doué, d'ailleurs, hein, dans les rôles secondaires, Moussa Maaskri. On a Anne Leni. Oh, bah, bien sûr, on la connaît aussi. On a encore qu'on connaît. Ah oui, on a Idir Azougli. Alors lui, on l'a vu, la dernière fois qu'on l'a vu en 2018, c'était dans Scheherazade.
Mm-hmm. Oui. On se rappelle de ce film.
Oui, de Jean-Bernard Marlin. Il y avait Kenza Fortas, d'ailleurs, qui jouait avec lui. Et, oui, oui, on en avait parlé de toute façon, ici à l'antenne de Radio Entre-deux-Mers. Là, donc, on a... Alors, ce film, en fait, il s'est inspiré de l'affaire Amanda Knox, où une jeune Américaine qui faisait ses études en Italie a été condamnée en 2007 pour le meurtre de sa colocataire. Alors Tom McCarthy, là, le réalisateur, souhaitait évoquer les répercussions humaines de faits divers tragiques. Conjuguant la trame de cette affaire avec sa passion pour le polar méditerranéen, il s'est attelé à l'écriture d'un scénario se déroulant à Marseille. Voilà, et là, enfin, en départ, il avait abandonné le projet, il était insatisfait du résultat. Bon, donc, et puis finalement, il a abandonné. Puis en 2010, il a réalisé un film qui a énormément marché, qui s'appelle Spotlight, qui est un vraiment un film avec Michael Keaton et Mark Ruffalo. Et c'est qui a été, je ne sais plus, 6 prix, 14 nominations, quelque chose comme ça. C'était l'histoire du le prix Pulitzer là, qui avait été gagné par le journal Boston Globe, qui enquêtait sur les abus sexuels au sein de l'Église catholique. Dans Spotlight, ça a eu un succès dans tous les festivals d'ailleurs. Et puis, quand il a eu terminé Spotlight, comme ça s'était très bien passé, eh bien, il est revenu sur justement le script de Stillwater. Voilà. Donc, il n'avait pas relu, nous dit-il, depuis 7 ou 8 ans. Donc là, Dieu merci pour nous, il l'a relu et il a décidé de réaliser le film. Et il nous dit d'ailleurs que Matt Damon s'est rapidement imposé dans le rôle principal. Ouais, il a pensé très, très rapidement à lui. Donc, voilà, il a... pour être crédible, en foreur de pétrole, parce qu'il est foreur de pétrole dans ce film, Matt Damon, il a passé beaucoup de temps en compagnie de rougenecks d'Oklahoma. Ce sont des Américains qui exercent des métiers manuels très difficiles. C'est des rougenecks.
Non, roughneck.
Roughneck, oui, c'est-à-dire, c'est GH. Donc
oui,
c'est
Roughneck
d'Oklahoma. Voilà, bon, ben Damien connaît Oklahoma, donc il les connaît. Mais c'est ça, quoi. L'expression désigne principalement les foreurs, d'ailleurs. C'est sûr que c'est un métier extrêmement, extrêmement difficile, hein, quand même. Hein, ce métier manuel, extrêmement difficile. Voilà, donc Stillwater se déroule principalement à Marseille. Bon, on est très contents, finalement. Hein, mais aussi en Oklahoma. Donc, il y a les deux, hein, pour mettre en exergue les différences spectaculaires entre les deux lieux. Eh oui, Marseille et l'Oklahoma. Alors, il y a des scènes, les scènes américaines ont été tournées en plan séquence et ont privilégié le tournage caméra à l'épaule pour Marseille. Voilà. Donc, c'est dans l'Oklahoma, nous dit le metteur en scène, nous avons filmé à la dolly et avec une caméra fixée sur un trépied. Et avec différents objectifs, je voulais qu'on sente le poids et l'immobilisme de la vie de Bill dans cette région à travers un certain style de mise en scène. Et ensuite, à Marseille, je tenais à ce qu'on ressente l'énergie du tournage à l'épaule et la vitalité de la ville. Cela correspond à ces deux mondes qui traversent le film. Ça rappelle Claude Lelouch, ça, quand même, hein, caméra à l'épaule.
Caméra au poing.
C'est marrant, chaque fois, on pense à lui, quoi, parce que c'est lui qui est le premier de tous les réalisateurs français à filmer comme ça. Eh oui. C'est Claude Lelouch. Alors voilà, il y a une séquence aussi qui était très, très, très compliquée, qui s'est tournée dans le stade Vélodrome, hein, qui est un site emblématique à Marseille.
Le plus beau stade du monde, là, presque.
Tout à fait, tout à fait. Et les Marseillais en sont très fiers. Il y a quand même une capacité de 67 000 places. Ouh, c'est quand même... et qui accueille le club de l'OM. Bah oui, voilà. Il s'agit justement de cette scène, c'est le passage où Bill emmène Maya à un match et s'aperçoit qu'ils sont assis à quelques dizaines de mètres d'Hakim. La scène a été tournée pendant un authentique match. Ah oui, voilà. C'est quand même... il me tarde de voir cette scène quand même, finalement. Hein. Ah oui. C'est sûr. Et puis, il y a une partie qui a été tournée aussi dans un endroit désaffecté de la prison des Baumettes. Il y a un endroit qui est désaffecté. Voilà. Donc, ils ont apporté quelques aménagements quand même. Quoi. Mais bon. Et pour les scènes qui se déroulent dans la cité où Bill se rend pour retrouver Hakim, la production a tourné à Callister, dans les quartiers nord. Moi, je connais pas trop, mais les Marseillais, eux, ils vont s'y retrouver, c'est sûr, hein, quand ils iront voir le film. Voilà, puis je disais, le fameux acteur, la Moussa Maaskri, on note sa présence, ça c'est ce qui était noté justement, comédien marseillais, ultra habitué à jouer les gangsters, comme ses prestations dans Requiem pour elle, etc. Ah ben oui, l'immortel aussi, oui, oui, il était un vilain bonhomme, et dans Carbone aussi. Voilà. Eh bien, Stillwater parle de la nature humaine, c'est ce que nous dit le réalisateur, de ce qui nous pousse à prendre nos décisions et du fait que nos valeurs morales peuvent être corrompues par notre passé, par la société et par notre amour pour nos proches. Ça donne une idée là, de ce qu'il va y avoir, de ce qu'il y a dans la tête du héros là, de Bill Baker par rapport à sa fille. Là, tout. Mais on ne peut pas en dire plus quand même. Bon, hein. Et puis il parle aussi de notre regard sur notre obligation morale. C'est un récit d'émancipation, c'est ce qu'il nous dit, qui parle de la culpabilité et de la honte qui nous aliène et qui nous emprisonne. C'est un film qui parle de notre besoin de se sentir aimé et de se sentir utile. Et c'est un film que je ne me sentais pas prêt à faire jusqu'à présent. Eh bien, Dieu merci, il a changé d'avis, il l'a fait, c'est très très bien. Voilà.
Ça s'appelle donc Stillwater.
Oui, ça s'appelle Stillwater.
Et maintenant, c'est un film de Caro Alves de Souza que on retrouve. Non, ça sera après. Pour l'instant, c'est un film de Giovanni Aloa qui s'appelle La Troisième Guerre.
Oui, La Troisième Guerre. Oui, on n'a pas beaucoup de comédies quand même là hein, en ce moment.
Pas cette semaine. Hein.
Non, j'étais un petit peu bon. Bon, ben voilà. C'est La Troisième Guerre, c'est un drame français. Tu l'as dit, Giovanni Aloa, c'est un réalisateur scénariste italien. Il a 36 ans, c'est son premier long métrage. Hein. Alors, Giovanni Aloa, il fait partie, lui, du collectif de réalisateurs de vidéos qui s'appelle The Spunk Studio. Il est essentiellement un documentariste et il réalise en particulier des films biographiques, d'habitude. Donc, son film a une nomination à Reims Polar, Festival international du film policier 2021, dans la catégorie Compétition 109. C'est quoi cette histoire ? C'est Léo. Léo vient de s'engager dans l'armée de terre française. Pour sa première affectation, il écope d'une mission sentinelle. Le voilà arpentant les rues de la capitale, aux côtés de deux collègues, sans rien à faire, sinon rester à l'affût d'une éventuelle menace. C'est alors qu'on lui donne la mission de sécuriser les abords d'une grande manifestation contre le gouvernement. Le jeune homme se retrouve plongé au milieu d'une foule en colère. Toute la frustration accumulée depuis des semaines va ressortir d'un coup. Alors c'est un très beau casting, on a de très bons comédiens, on a Leïla Bekti, on la connaît, on a Anthony Bajon, on a Karim Leclou. Oh, mais on les connaît tous là, hein. Ce sont d'excellents comédiens. Le film, en fait, s'intéresse de près aux soldats engagés dans le combat invisible contre le terrorisme. Giovanni Aloa, le réalisateur, décrit un Paris bien éloigné des clichés de la carte postale. Une ville en perpétuel état d'urgence depuis les attentats de Charlie Hebdo et du Bataclan. Un colis suspect, un sac laissé sur le sol, rien ne peut être négligé dans cette quête fébrile où les militaires ont des pouvoirs très distincts de policiers. C'est un film d'atmosphère méthodique, captivant, concentré sur un grand trio d'acteurs. Je viens de les nommer, on les renomme. Leïla Bekti, Karim Leclou, Anthony Bajon. Et oui.
Et on écoute la bande-annonce.
Oui.
Pour se mettre dans le thème.
L'ambiance, on peut dire.
Une rue, des passants, des fenêtres. Ce que tu vois, c'est des menaces potentielles. Alors tu te méfies.
Ici, ça risque d'être la guerre. Dans pas longtemps. Moi et les mecs avec qui je suis, on sait.
Moi, je suis un Renoir. La France, elle veut pas de moi. Mais toi, qu'est-ce que tu fous, là ?
Je suis là, c'est tout.
Allez, dans ta gueule, face de plomb.
Vous avez vu des femmes dans l'armée française ? Moi, j'ai vu que des soldats. Vous êtes un soldat ?
Oui, mon commandant.
Sortez-vous les doigts du cul, en fait, moi, ce parcours.
Corvard, on a tous des problèmes.
Mais quand t'arrives au régiment, tu les laisses derrière toi. Est-ce que tu sais pourquoi on porte un uniforme? Pour uniformiser, justement. Donc je veux pas savoir ce qu'il y a dans ta tête, je veux pas savoir ce qui se passe chez toi.
Je m'en fous de savoir que bientôt ça va être le chaos. Je sais pourquoi je suis là maintenant. J'ai plus peur. Les gens se rendent pas compte. Juste un mec déterminé peut anéantir l'humanité en deux secondes. Et y'a qui pour l'arrêter? Y'a plus que nous. Moi, je suis prêt.
Anthony Bajon, là, qu'on entend oui. À la fin, qui est un jeune qui avait été révélé dans le film d'Edouard Bergeon. Avec Guillaume Canet, qui s'appelait, je ne me rappelle
j'étais
plus.
J'étais en train de chercher, figure-toi,
et
dans ma tête.
Enfin, un film autour de la, ouais. De l'agriculture.
Mais oui, mais oui, j'étais en train de le chercher.
Ça va revenir. C'est
je
pas
le là. Vois en plus, lecteur.
Voilà.
En fait,
et là, depuis ce film, il a joué dans plusieurs films.
Ah ben,
et
oui.
C'est il est très, très remarqué.
Mais il a beaucoup de talent. En fait, le titre du film, La Troisième Guerre, ça fait référence en fait, à Charlie Hebdo. Après l'attaque de Charlie Hebdo, Manuel Valls avait décrété que la France était entrée en guerre contre le terrorisme. Alors, en tant que spectateur, il nous dit, quoi, le réalisateur, nous baignons tous les jours dans les images médiatiques de conflits armés.
Au nom de la Terre, c'est le film qui a révélé
ah oui, voilà.
Anthony Bajon.
Mais oui, mais bien sûr, mais bien sûr. Mais c'est quelqu'un qui va certainement faire une très belle carrière.
Oui, il est sorti là dans Les Méchants, on en a parlé il n'y a pas longtemps, et
oui.
Voilà, il joue pas mal.
Bah, il a plein de talents. Et puis, il est avec Karim Leclou, Laila Bekti, bon, voilà.
Karim Leclou, qui lui, on a vu dans Bac Nord, et Laila Bekti, qu'on ne présente plus.
Oh là là, on ne la présente plus, ce talent bon sang. Voilà, bah oui, oui, oui. Oh, écoutez, j'ai dit 1h30 le film. Franchement à voir, hein, mes chéris.
Et maintenant, nous allons parler du film qui s'appelle « Je m'appelle Bagdad ».
Oui, qui est un drame brésilien de Caru Alves de Souza, qui est une réalisatrice, scénariste, productrice brésilienne. Elle a 42 ans, elle a 10 ans de carrière, 4 longs-métrages et 3 courts-métrages, plus un documentaire. Elle a plusieurs documentaires. Donc c'est son troisième long métrage, Je m'appelle Bagdad, qui a eu un prix, le prix du jury des étudiants et étudiantes du festival Ciné Junior. Joli prix quand même. Alors Bagdad, c'est qui? Ben, c'est une skateuse. Ouais, Bagdad est une skateuse de 17 ans qui vit à Freguesia do, qui est un quartier populaire de Sao Paulo au Brésil. Freguesia do O même, il y a un O après. Ouais, Freguesia do O. Quartier populaire. Bagdad skate avec un groupe d'amis masculins et passe beaucoup de temps avec sa famille et avec les amis de sa mère. Ensemble, les femmes qui l'entourent forment un réseau de personnes qui sortent de l'ordinaire. Lorsque Bagdad rencontre un groupe de skateuses féminines, sa vie change soudainement. Alors on a dans les rôles, on a Grace Orsato, Elena Luz, Karina Bour, William Costa, Carlota Joaquina, Gilda Nomache, Marie Maimon, Suzy Rego. On a. Ce sont des actrices, mais ce sont des skateuses, des vraies, hein, quand même. Hein. Et Grace Orsato, qui joue Bagdad, est une actrice donc brésilienne, on l'a dit, skateuse et créatrice de vêtements recyclables et elle est également plasticienne. Alors, au moment du tournage, elle pratiquait le skateboard depuis à peu près un an. Et le film est son premier grand rôle au cinéma. Le casting du film s'est fait autour des skateurs qui n'avaient jamais joué devant une caméra. Les acteurs, les amateurs et les professionnels n'ont pas reçu un scénario complet. La réalisatrice a préféré des répétitions, en fait, sur le tournage avec une coach, d'ailleurs, afin de créer la dynamique des scènes et les répliques des personnages. Évidemment, c'était plus naturel, à partir du moment où elle n'avait pas lu le scénario, justement. Dans ce film, Grace Orsato, Bagdad, utilise une caméra à main authentique. Ça lui permet de véhiculer son point de vue et de révéler son univers intime. C'est un très beau film. Si vous aimez le skate, hein, alors là, franchement, il faut aller les voir. Ouh! Et puis, alors, bon, bah, Sao Paulo, on rappelle quand même que c'est un des 26 États qui est fédéré à l'intérieur du Brésil. Sao Paulo, c'est situé dans le sud-est. Et c'est quand même le centre financier dynamique du Brésil, Sao Paulo, voilà. Et la capitale de cet État, eh ben, c'est la ville de Sao Paulo. Il y a l'État et la ville. Voilà, c'était juste pour rappeler un petit peu. Voilà, allez, c'est l'Amérique du Sud, avec ces jeunes sur leur skate. C'est magnifique à regarder. 1h36. Je m'appelle Bagdad.
Et maintenant, nous allons retrouver un film que tu nous proposes.
Oui.
Qui, lui, s'appelle Notturno, un film de Gianfranco Rossi.
Oui, Notturno, c'est la nuit, en fait. On peut le traduire facilement. Gianfranco Rossi, oui, c'est un réalisateur, ingénieur du son de documentaire, en fait, normalement, puisque là, il s'agit d'un documentaire, on est d'accord. Donc, il est ingénieur du son, directeur de la photographie, il a 57 ans, il est américano-italien et érythréen aussi. Il a 3 nationalités, Gianfranco Rossi. L'Érythrée, on sait ce que c'est, c'est le pays du nord-est de l'Afrique sur la côte de la mer Rouge. Bon, juste pour situer d'où il vient quand même. C'est la frontière Éthiopie, Soudan, Djibouti, ou un petit peu. Et ça a été colonisé d'ailleurs par l'Italie en 1885. Érythrée, voilà. Donc ça explique tout ce qu'il sait, tout ce qu'il connaît, cet homme-là. Il a 27 ans de carrière. Il a commencé jeune aussi. 7 tournages à son actif, 2 prix, 17 nominations. Voilà. De combien de douleurs, de combien de vies se compose l'existence au Moyen-Orient ? Point d'interrogation. Notturno a été tourné au cours de ces 3 dernières années le long des frontières de l'Irak, du Kurdistan, de la Syrie et du Liban. Tout autour des signes de violence et de destruction, et au premier plan, l'humanité qui se réveille chaque jour d'une nuit qui paraît infinie. En fait, il nous explique que ce film est né d'une intuition. J'ai pensé, dit-il, qu'en totale immersion je vais dans le Moyen-Âge, peut-être à cause de ce qu'on a connu ce week-end, là, ici, justement. C'était bien la fête du Moyen-Âge.
C'était 740 ans de sauveterre.
Voilà, donc c'est pour ça que je me suis... Voilà, en totale immersion donc au Moyen-Orient. J'allais, dit-il, pouvoir raconter l'histoire de cette région tragiquement incomprise et marquée par de nombreux préjugés comme cela n'avait jamais été fait auparavant. Il nous dit également que Notturno est un film politique qui ne prétend pourtant pas faire de la politique. Il ne cherche pas à déterminer les causes du conflit, ni à démêler les innombrables questions religieuses et territoriales qui sont en jeu. Et Dieu sait qu'il y en a un. Je voulais, dit-il, simplement rester au plus près des hommes, des femmes et des enfants, dont la lutte métaphorise ce qui n'émeut absolument plus la vie des êtres humains. C'est titré « Aux frontières de l'Irak, le Kurdistan, la Syrie et le Liban », un sublime voyage cinématographique, un regard empreint d'une profonde humanité. Il est un petit peu pessimiste quand même, notre réalisateur, puisqu'il dit que la vie des êtres humains n'émeut plus personne. Ben nous, non, moi j'avoue que je le trouve trop un peu pessimiste, là. La vie des êtres humains, c'est tellement important. Alors, c'est un film italien, français et allemand qui dure 1h40. Il a été présenté dans tous les festivals Notturno. Et puis, il y avait un autre documentaire après.
Tu voulais nous présenter un documentaire qui s'appelle Une fois que tu sais, d'Emmanuel Capelin.
Oui. Un documentaire français d'1h44. Oui, tu dis Emmanuel Capelin. Oui, Emmanuel, c'est un réalisateur, producteur, directeur de la photographie. Il est français. C'est un réalisateur de documentaires également, un chef opérateur aussi. En fait, il travaille régulièrement avec Yann Arthus-Bertrand, comme chef op, justement, qu'on connaît quand même, ce photographe, reporter, réalisateur, écologiste français. Donc, une fois que tu sais... Confronté à la réalité du changement climatique et à l'épuisement des ressources, le réalisateur Emmanuel Caplin prend conscience qu'un effondrement de notre civilisation industrielle est inévitable. Mais comment continuer à vivre avec l'idée que l'aventure humaine puisse échouer ? En quête de réponse, il part à la rencontre d'experts et de scientifiques tels que Pablo Servigne, Jean-Marc Giancovici ou Suzanne Moser aussi, tous appellent à une action collective et solidaire pour préparer une transition la plus humaine possible. Alors en fait, c'est une odyssée, hein, une fois que tu sais, une odyssée qui touche à l'intime et qui transforme notre regard sur nous-mêmes et sur le monde pour mieux construire l'avenir. Il aurait dû sortir en mars 2021, ce film. Bon, ça a été retardé, mais ça, hein, c'est pas une nouvelle, puisque ça fait quelque temps que ça dure. C'est une fable climatique pour sortir de l'immobilisme une fois passé le fameux cap de la prise de conscience. Voilà ce qu'il nous dit. Une fois que tu sais. Ça veut dire, eh oui, une fois que tu sais, est-ce que tu peux ignorer ? C'est ça la question. Est-ce que tu peux ignorer encore une fois que tu sais ? On se pose la question, mes chéris. On se pose tous la question, malheureusement.
Et le dernier film documentaire que tu nous proposes, il s'appelle Bigger Than Us, Plus Grand Que Nous.
Oui, Plus Grand Que Nous, Bigger Than Us. C'est de Flore Vasseur, qui est une réalisatrice scénariste française. Elle est écrivaine également, elle est journaliste, elle est entrepreneuse pardon, dans sa vie de tous les jours. Elle a 48 ans. Et ce film, en fait, fait partie de la section éphémère, le cinéma pour le climat du Festival de Cannes 2021. Je ne sais pas si tu te souviens, Damien, j'avais parlé effectivement, quand on avait justement cité tous les prix du Festival de Cannes, de cette section qui venait d'être créée là en 2021, qui s'appelle le cinéma pour le climat. Effectivement, et ce film avait été cité, c'est pour cette raison que je l'avais mis de côté, effectivement. Il a une nomination au Festival de Cannes précisément et dans cette catégorie, le cinéma pour le climat. C'est quoi ? C'est depuis 6 ans, Melati, 18 ans, combat la pollution plastique qui ravage son pays d'Indonésie. Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes adultes luttent pour les droits humain, le climat, la liberté d'expression, la justice sociale, l'accès à l'éducation ou l'alimentation, la dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et de leur sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres. La terre, et ils changent tout. Melati part à leur rencontre à travers le globe. Elle veut comprendre comment tenir et poursuivre son action. Des favelas de Rio aux villages reculés du Malawi, des embarcations de fortune au large de l'île de Lesbos, aux cérémonies amérindiennes dans les montagnes du Colorado, René, Marie, Xiu, Mumuri, Mohamed et Winnie nous révèlent un monde magnifique, celui du courage et de la joie, de l'engagement pour plus grand que soi. Alors que tout semble s'effondrer, cette jeunesse nous montre comment vivre. Et ce qu'être au monde signifie aujourd'hui. Donc c'est Marion Cotillard est coproductrice de ce film. Au fait, bravo Marion Cotillard. Donc elle est Flore Vasseur, elle est entrepreneuse à New York et elle l'est depuis l'âge de 24 ans d'ailleurs. Et elle vit la bulle Internet, le 11 septembre, et un système capitaliste qui craquelle de toutes parts. Voilà ce qu'elle a vécu. Depuis, elle écrit des livres, des articles, des documentaires pour comprendre la fin d'un monde et l'émergence d'un autre. Suite logique de ses 15 années d'enquête et d'écriture, Bigger Than Us est son premier film documentaire de cinéma. C'est titré « Une énergie vitale des jeunes rayonnants », un film essentiel. C'est quand même... Alors Melati, on parle d'elle hein, dès le départ, Melati Vijsen, elle a 18 ans, elle combat la pollution plastique en Indonésie. Mohamed Al-Jounde est 18 ans, il combat pour l'éducation pour les réfugiés au Liban. Memory Banda, il a 22 ans, il combat pour le droit des filles au Malawi. Mary Finn, 22 ans, combat pour le secours aux réfugiés en Grèce. On a également René Silva, 25 ans, qui combat pour la liberté d'expression au Brésil. Winnie Tuchabe, 25 ans, combat pour la sécurité alimentaire en Ouganda. Et Zuchetzal Martinez, prénom indien, un petit peu compliqué son prénom, 19 ans, combat pour l'urgence climatique aux USA. Voilà les héros, entre autres, de ce documentaire, qui est magnifique. Magnifique documentaire, vraiment.
Et qui s'appelle Bigger Than Us.
Oui, plus grand que nous. Essayez de le choper, mes chéris, ça vaut la peine. Il dure 1h36, je ne sais pas si je l'avais dit. Voilà. Okay. Et puis, je voulais dire aussi, j'ai deux auditeurs de Libourne que j'ai eu en contact là, qui aiment beaucoup la radio, voilà. Et c'est Gaël et Loustic. Alors, je l'avais pardonné s'ils veulent appeler, parce qu'apparemment, ils avaient envie d'appeler un peu. 05 56 61 10 85, c'est notre numéro, vous pouvez appeler. Radio Entre-deux-Mers, 05 56 61 10 85. Bonne journée Gaël Loustic. Et voilà, c'était pour eux.
Et sur Radio Entre-deux-Mers, on vous laisse la conversation autour du cinéma. Vous la retrouverez la semaine prochaine, mercredi à 11h. Et les podcasts, c'est sur le www.re2m.com.
Oui, voilà. Merci en tout cas. Merci Damien pour ton aide, là, pour ton soutien. Et puis vous, mes chéris, merci de nous recevoir chez vous comme ça régulièrement. On est tellement contents de vous retrouver à chaque fois. Et puis, passez une bonne semaine. Essayez de... Voilà, prenez soin de vous, de votre entourage. Et puis, soyez heureux surtout. Qu'il pleuve ou qu'il ne pleuve pas, qu'il fasse soleil ou pas, soyez heureux. Et puis, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous, bisous.
Silence.